Donc aujourd'hui, c'est le jour de Pentecôte. Jour de Pentecôte, où nous célébrons la naissance de l'Église. Et à ce sujet, ce matin, j'aimerais vous parler d'un mystère. J'aimerais vous parler d'un mystère, et je vous invite à ouvrir votre Bible dans Éphésiens chapitre 3, versets 1 à 9. De quel mystère s'agit-il? D'accord? Donc, Éphésiens chapitre 3, versets 1 à 9. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, non-juifs, ce qu'il faut entendre ici. Si vous avez appris comment j'ai fait part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Première fois, le mot mystère. Sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Mystère, deuxième fois. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Troisième fois, verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Verset 7, « Dont j'ai été fait ministre, hein, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché, quatrième fois mystère, de toute éternité en Dieu qui a créé toutes ces choses. » Ce matin, j'aimerais juste voir trois choses au sujet de ce mystère. D'abord, quel est le sens du mot mystère selon la Bible? Et d'après notre passage, et on va revenir ce que Paul a développé au chapitre 2, avant d'arriver au chapitre 3 que nous venons de lire, quel est ce mystère? Et on finit. Mais ça s'est passé il y a 2000 ans. Mais quel intérêt aujourd'hui de réfléchir à ce mystère? Quel est le sens du mot mystère dans la Bible? Dans la Bible, le mot mystère, c'est pas comme dans le langage courant où on parle de mystérieux. On parle quelque chose d'indéchiffrable ou impossible à comprendre. Ce n'est pas ça du tout. Dans la Bible, il s'agit plutôt d'une vérité qui était cachée par Dieu dans les temps passés. Je répète, une vérité qui était cachée par Dieu dans les temps passés, mais qui est maintenant révélée à ceux qui sont de sa famille, de la famille de Dieu. Ce n'est pas une définition que Lala a inventée comme ça. Ça vient de la Bible elle-même et j'espère que vous l'avez constaté de ce que nous venons de lire tout à l'heure au verset 5. Ça donne même la définition que nous venons de lire tout à l'heure. Regardez, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. Donc le mystère, c'est quelque chose qui n'a été pas révélé dans le passé, aux autres générations, mais il a été révélé maintenant. Vous voyez? Ça, c'est la définition du mystère, selon la Bible. Donc, ce n'est pas ma définition, c'est la Bible elle-même qui confirme cette définition. Et encore, deux passages de la Bible pour attester cette définition. Regardez Colossiens 1, 26. Pour voir tout le contexte, je vous invite à le noter et à lire chez vous du verset 24 au verset 29. Hein? Ici, on parle d'un mystère. Un autre mystère, c'est le mystère de Christ qui habite le croyant. Ça, c'est un mystère qui n'a été pas révélé dans le temps passé, mais maintenant révélé, hein, dans la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu aux apôtres. Et donc, on lit ici Colossiens 1, 26, mystère caché de tout temps, vous voyez bien, caché de tout temps, et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Vous voyez, il y a l'aspect toujours caché jusqu'à un temps, mais révélé maintenant. Regardez encore un autre mystère, Romains chapitre 16, versets 25 et 26. Vous lisez le contexte, ça parle d'un autre mystère, le mystère de l'Évangile. Et nous lisons à ce sujet, verset 25, « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile, vous voyez, et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère caché pendant les siècles. » Verset 26, « Mais manifesté maintenant. » Il y a toujours caché dans le temps passé, mais maintenant révélé. Vous voyez, « Par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, il est porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. » Avez-vous remarqué dans Colossiens 1:26, le mystère, c'est pas pour des initiés, quelques initiés tirés au choix. C'est pour ces saints, pour vous et moi qui sommes en Jésus-Christ. Juste en revenant dans Éphésiens, chapitre 3 que nous venons de lire, je voudrais juste souligner au verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, c'est Paul qui parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est impossible par l'homme de lui-même de découvrir ces mystères. Il faut une révélation, il faut un dévoilement que Dieu lui-même en personne le fasse. Ça, c'est la première chose à souligner. Au verset 5, il y a quelque chose à souligner. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc, on note premièrement que c'est par le Saint-Esprit que Dieu a fait ses révélations. On note deuxièmement que c'est aux apôtres et aux prophètes de Christ que le Saint-Esprit les a révélés. C'est écrit. Rappelons-nous que ces dons, dans la Bible, Dieu fait des dons. Soit il fait des dons de charisme, des dons spirituels. Il fait aussi dans la Bible des dons d'hommes. Et ici, on parle de ces dons des hommes, les apôtres et les prophètes. Donnés par le Seigneur, après son ascension, et ils posèrent le fondement doctrinal de l'Église, les apôtres et les prophètes, hein, comme le dit Paul dans Éphésiens 2, verset 20, « Vous avez été édifiés en parlant de ces chrétiens sur le fondement des apôtres et des prophètes, sur le fondement des enseignements des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire de cet édifice qu'est l'Église. » Important à souligner que même si ces dons d'hommes, à savoir les apôtres et les prophètes de Christ, n'existent plus aujourd'hui, ces dons d'apôtres et de prophètes de Christ n'existent plus aujourd'hui, mais nous avons par contre leur enseignement dans tout le Nouveau Testament, en sorte que tous les croyants peuvent connaître le mystère de Dieu. Comme nous l'avons lu tout à l'heure, Colossiens 1, 26, mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement pour quelques initiés, mais à tous les saints, ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est aussi important de comprendre qu'il n'y a plus aujourd'hui de révélation. Tout ce que Dieu a voulu nous révéler est dans la Bible, dans la parole de Dieu. Du Genèse à Apocalypse. C'est pour cela, pourquoi on peut dire ça? Jude, dans l'épître de Jude, a écrit à ses destinataires en parlant de la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. D'après mes recherches, en fouillant sur le mot mystère, Il est répété 27 fois dans le Nouveau Testament, le mot mystère. Et en les examinant, on peut trouver 14 grands mystères que Dieu nous a révélés. Je suis en palpitation de se dire, est-ce qu'on va se lancer dans ça, à étudier tous les mystères? Pour l'instant, non, parce qu'on a encore les séries à terminer de Timothée. Mais oui, il faut que le peuple de Dieu sache quels sont ces mystères que Dieu nous a révélés. Et c'est pour nous, c'est ça. On doit les connaître, n'est-ce pas? Mais il viendra le temps. Mais vous pouvez déjà, vous-même, regarder dans votre Bible cela. Et j'espère que ceci devrait susciter en nous un ardent désir de lire attentivement et d'étudier sa parole afin de connaître ses merveilleux secrets. Ce n'est plus un secret, mais maintenant révélé que Dieu nous a fait connaître, et c'est dans la Bible. Oui, nous avons vu quel est le sens du mot mystère dans la Bible. C'est clair pour vous, j'espère. Maintenant, quel est ce mystère dont Paul développe dans Éphésiens que nous venons de lire? Eh bien, ce mystère, la réponse est très claire au verset 6 du chapitre 3. Ce mystère, c'est quoi? C'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. En un mot, le mystère dont Paul parle ici, c'est le mystère du corps de Christ. Il n'a jamais été question dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, révélé à Paul, nous avons maintenant le mystère du corps de Christ qui nous est révélé par Dieu. Si vous voulez, aussi, mystère de l'Église. Parce que le corps de Christ est une métaphore pour parler de l'Église de Jésus-Christ. Et si vous avez remarqué, dans Éphésiens 3:6, il parle aussi du mystère de Christ. C'est la même chose. Donc, retenons bien, mystère du corps de Christ, c'est la même chose que mystère de l'Église, c'est la même chose que mystère de Christ. Et quel est le contenu de ce mystère? Le contenu de ce mystère, c'est que tous les rachetés du Seigneur, issus du peuple juif, ou des nations, c'est-à-dire les non-juifs, sont unis à Christ en un seul corps, l'Église. C'est ce qui est écrit là. Les païens non-juifs constituent avec les croyants d'origine juive les membres du corps de Christ. Et c'est là que nous devrions être émerveillés de ce que Dieu nous a fait devenir en Jésus-Christ. Membres de l'Église, membres du corps de Christ. Moi, c'est pas possible. Et oui, les croyants, les non-juifs, sont admis à partager tous les privilèges selon les promesses données à Abraham par le fait uniquement d'être en Jésus-Christ. Magnifique. Ce mystère, c'est que les païens, comme vous et moi, sont co-héritiers. On va hériter ensemble de ce même héritage. Nous formons un même corps et participons à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Quelle merveilleuse nouvelle! Paul a eu la responsabilité de transmettre à l'Église le mystère de l'Église, le mystère du corps de Christ. Vous savez, c'est là que je vous amène ce matin à réfléchir, à me suivre, que ce n'est pas une évidence au début de la naissance de l'Église. Aujourd'hui, nous voyons l'Évangile propagé partout, à tous les peuples, et ça nous paraît aujourd'hui une chose évidente, simple, n'est-ce pas? Et nous trouvons ça naturel. Mais au temps des apôtres, c'est incroyable parce que c'est une nouveauté. Pourquoi? Et cela nous amène maintenant à la question quel est l'intérêt de comprendre ce mystère aujourd'hui pour nous? Et pour cela, pour le comprendre, il faut aller dans Éphésiens chapitre 2, versets 12 à verset 19. Lisons-le ensemble. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là. Il parle des chrétiens maintenant dans l'église. Mais en leur faisant souvenir, qui étaient-ils quand ils étaient perdus sans Christ? Et Paul dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Terrible. C'est le cas de nous tous quand nous étions sans Christ. Mais maintenant, dans les arguments maintenant, Paul dit, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux, qui des deux, selon vous, les païens et les juifs, qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ou l'hostilité. Verset 15, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par la croix elle-même, par elle, l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, c'est les païens, nous les non-juifs. Et la paix à ceux qui étaient prêts, les juifs. Car par lui, les uns, les païens, les autres, les juifs, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. C'est incroyable. À l'époque, incroyable, inimaginable pour eux ça. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Avez-vous remarqué dans le passage que nous venons de lire, les mots-clés? L'inimitié. L'inimitié. Et l'inimitié, si vous avez bien regardé du verset 12 au verset 19, il y a deux aspects dans cette inimitié. D'abord, l'inimitié veut dire hostilité, haine. D'accord? Donc c'est une double inimitié. Pourquoi? Parce qu'il y a une inimitié entre les juifs et les non-juifs. C'est ce qu'il est en train d'expliquer du verset 13 à verset 15. Mais il y a encore une autre hostilité, hostilité à la fois des juifs et des non-juifs, cette fois-ci envers Dieu. C'est ce qu'il développe du verset 16 au verset 18. Très important celui-là. Hostilité entre les juifs et les païens. Et hostilité des juifs et des païens à l'encontre de Dieu. Quelle est la cause de cette inimitié? Regardez le verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Ah! Les Juifs, peuple mis à part, élu de Dieu, un privilège d'avoir la lumière, d'avoir la connaissance, d'avoir des lois qui viennent de Dieu. Ce n'est pas le cas des païens. Et là, on a dit ici que Christ a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Vous savez, donc la loi établissait une distinction bien définie entre les juifs et les non-juifs. Et j'aimerais juste, c'est là que pour que vous puissiez voir la complexité des choses, c'est que la source de cette séparation entre les juifs et non-juifs, cette hostilité venait du fait de la loi que Dieu donnait à son peuple élu, qui était le juif. Pourquoi? Parce que vous savez, depuis des siècles, les juifs étaient toujours différents des non-juifs. Qu'il s'agisse de religion, qu'il s'agisse de vêtements, qu'il s'agisse de nourriture, qu'il s'agisse des lois qui gèrent la société. Dieu les a voulu un peuple à part consacré à Dieu. Et Dieu a donné des lois qui régissent son peuple. Je vais vous montrer un aspect, juste deux exemples aujourd'hui, pour montrer cette barrière qu'a érigée la loi entre les juifs et non-juifs et qui a causé des problèmes au début de l'histoire de l'Église. Un exemple juste des lois que Dieu a données à son peuple. Au sujet de la religion, qui diffère les peuples juifs des non-juifs. D'accord? Et pour voir cela, nous allons regarder Actes chapitre 21, versets 28 à 31. Ici, dans le contexte, Paul veut aller à Jérusalem. Ah, ça tombe bien, aujourd'hui, nous célébrons Pentecôte. À ce moment-là, Paul voulait aller à Jérusalem pour célébrer la fête de Pentecôte. Il arrive à Jérusalem. Et problème. Nous lisons le problème. En criant, homme israélite, au secours, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi, contre ce lieu. Donc c'est des juifs qui venaient d'Asie, probablement d'Éphèse, qui viennent maintenant à Jérusalem et veut en vouloir à Paul. D'accord? C'est eux ici qui sont cités. Et ils disent, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, en parlant des peuples juifs, contre la loi, ce que Dieu a donné à son peuple juif, et contre ce lieu, ce temple. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. Une accusation très grave. Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville. Il croyait que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut émue et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Parce qu'il ne veut pas voir un cadavre dans le temple, sinon le temple est rendu impur. C'est la profanation. Fermé tout de suite. Comme il cherchait à le tuer, le bruit vint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. Vous voyez, ici, le problème vient du temple que Dieu a voulu que sa présence demeure auprès de son peuple. Et ici, des Juifs accusent Paul d'avoir franchi le mur. Je vais vous montrer le temple d'Hérode au 1er siècle. Ce mur, à ses amis non-juifs, lorsqu'il l'arrête, est menacé de le faire mourir. Voilà. Ici, ça c'est ce qu'on appelle le parvis des gentils. Là, c'est les païens. C'est là où ils peuvent y aller. Mais, ça c'est partie où ils ne peuvent pas entrer. Et vous voyez ce mur-là, ici là, ce mur-là, c'est ce qu'on appelle le soreg. Le soreg, c'est une séparation entre le cours des gentils, l'espace où ils peuvent y être, et le temple. Et donc c'est un mur ici. Et ce que je viens de vous dire dans Actes tout à l'heure, des juifs accusaient Paul d'avoir fait entrer dedans des païens. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça, ici, incroyable. Il faut le comprendre que ce mur de séparation, vous voyez bien la séparation entre les non-juifs et juifs. Même les enfants le savent. Quand on est mis à l'écart, oh, qu'est-ce qu'on a mal. On ne supporte pas d'être rejeté. les non les païens, hors de question de rentrer dans le cours du temple. Interdit. Et vous savez, les archéologues ont découvert dans le temple d'Hérode, ici, au 1er siècle, une inscription que les archéologues ont découvert, écrit ceci: aucun étranger ne peut pénétrer au-delà de la barrière, le Soreg, cette barrière, qui entoure le sanctuaire, vous voyez bien le sanctuaire là, qui entoure le sanctuaire, tout contrevenant en courant la peine de mort. Vous comprenez? Être un non-juif, c'est une barrière. De par votre race, vous n'avez pas accès aux privilèges comme le peuple juif. Il faut le comprendre, ça. Et ça, c'est le problème qui rentre dans l'Église au début de son histoire. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Et c'est là que c'est magnifique que nous devrions être tous en adoration et en louange à notre Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus a réconcilié juifs et non-juifs parce qu'il a détruit le soreg, ce mur de séparation. Je pense au sens spirituel du passé. D'accord? Ce mur qui est détruit, et c'est ce que Jésus a fait, il a accompli à la croix. Les barrières qui nous interdisait d'être dans la présence de Dieu, en Jésus-Christ, il n'existe plus. Amen. N'est-ce pas? Oui, Éphésiens 2:16, nous lisons: « Et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimité. » Cette destruction de l'inimité se fait au prix du sang de Christ. Au verset 13 de Éphésiens que nous venons de lire, 2, vous qui étiez jadis éloignés, en parlant de nous les païens, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Quand on parle de sang de Christ, il ne faut pas voir quelque chose de magique, de mystique dedans. Tout simplement, c'est Jésus qui a donné sa vie en tant que sacrifice pour le péché des juifs et des non-juifs. Et c'est ce péché qui est à l'origine de ce mur de séparation entre Dieu et les juifs et les non-juifs. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux aspects de l'inimité et l'hostilité entre juifs et non-juifs, et l'hostilité des juifs et non-juifs vis-à-vis de Dieu. Et c'est là que c'est magnifique. La conséquence de l'œuvre de Christ est alors la destruction de l'hostilité par l'abolition de la loi et la création d'un corps nouveau, l'Église, le corps de Christ. Chers frères et sœurs, c'est ça qu'il faut comprendre, hein, dans ce mystère de l'Église. Quand vous voyez la difficulté, comment les païens étaient exclus. Vous avez lu tout à l'heure, au verset 12. Pas de droit de citer un Israël, sans Dieu. Exclu des promesses. Tout. Le mur vous interdit de rentrer. En infraction, c'est peine de mort. Voilà. Et maintenant, dans ça y est, la mentalité d'un juif dans l'Église maintenant, sachant leur coutume, la religion, comment ils le pratiquaient, et les pauvres païens que nous, vous et moi, étaient un peu dans leur peau à l'époque. Vous voyez? Oui. Deuxième exemple de loi, juste, qui a été donnée aux juifs, mais qui constitue une barrière entre juifs et non-juifs pour que vous touchiez des doigts l'importance de ce mystère pour nous aujourd'hui. Je veux vous parler de l'alimentation. Dieu a donné de lois strictes à son peuple au sujet alimentaire. Oui, parce qu'il y avait dans la Torah des lois rituelles qui ont été données au peuple d'Israël pour mettre une barrière entre les juifs et les non-juifs, parce qu'ils sont des peuples à part pour Dieu. Et, par exemple, je vais donner un autre exemple, des lois alimentaires. Est-ce que vous avez entendu parler de la cachoute? Cette loi alimentaire qu'on appelle la cachoute. Oui, pourquoi? Parce que le repas occupe une place importante de la vie religieuse. Il doit être préparé en respectant un code alimentaire rigoureux. La cachoute. C'est un code qui regroupe les critères qui séparent les aliments autorisés que le peuple peut manger et ceux qui ne doivent pas être autorisés, qui ne peuvent pas manger. Citons un exemple juste, les animaux, on appelle les animaux purs, que Dieu autorise, vous pouvez manger ça. Et les animaux impurs, vous n'avez pas le droit de le manger. Et Dieu a donné des codes stricts. Comment reconnaître les animaux purs et les animaux impurs dans l'Ancien Testament ? C'est pas le sujet. Et vous savez, les aliments qui répondent favorablement à ces lois de la cacheroute sont dits cachères. Vous avez entendu parler de ça ? Les viandes cachères ? Ceux qui obéissent à ces codes que Dieu a donnés à son peuple, qui peuvent manger, c'est ce qu'on appelle les aliments cachères. Plutôt les viandes cachères, par exemple. C'est-à-dire aptes à être consommées. Quand on dit cachère, c'est des aliments aptes à être consommés. Je vous dis maintenant, ça c'est un deuxième exemple, nous venons de voir la barrière que crée la religion qui a été instaurée par Dieu pour le peuple juif. Mais c'est une barrière entre les juifs et les non-juifs. Là aussi, ça c'est une barrière. Les lois alimentaires. Dans quel sens qu'il faut le comprendre ? Eh bien, je vous cite un incident aussi qui arrive, et Paul fait référence en Galates. Disons Galates chapitre 2, versets 11 à 14. Mais lorsque Céphas, c'est l'apôtre Pierre, vint à Antioche, je, c'est Paul, lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Mais répréhensible de quoi ? Verset 12, en effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, Jacques, le frère du Seigneur, c'est pas Jacques, hein, qui est le frère de Jean qui était décapité par Hérode. C'est Jacques, le frère du Seigneur Jésus. Il mangeait, regardez bien, en effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, le frère du Seigneur, il mangeait, qui il ? C'est Pierre, mangeait avec les païens. Ah, les païens encore. Et quand elles furent venues, ces délégués, ces émissaires que Jacques envoyait de Jérusalem à Antioche. Et quand elles furent venues, il s'esquiva. Qui s'esquiva ? Pierre. Et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Qui sont les circoncis ? Les Juifs. Verset 13, avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation. Vous voyez l'attitude de Pierre, l'impact ? Et comment il a contaminé les autres ? En sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ? Vous savez, l'importance du repas, il y a un aspect symbolique derrière. Tout simplement parce que manger avec quelqu'un veut dire je suis en communion avec lui. C'est-à-dire, je le reconnais comme mon frère. Et vous savez, la langue française qui dit tu es mon copain. C'est-à-dire, tu partages le même pain avec moi. Copain. Donc, c'est ça l'idée qui est derrière le repas pris ensemble, l'idée de communion avec quelqu'un. Et ici, qu'est-ce qui se passe revenant à cet incident ? Si je refuse de manger avec quelqu'un, ça veut dire quoi ? Tu n'es plus mon copain. N'est-ce pas ? Eh oui. Et c'est ce que nous venons de voir ici. Pierre étaient les copains des païens avant que les émissaires de Jérusalem arrivent. Mais une fois que les émissaires sont arrivés, qui sait ce qui va ? Tu n'es plus mon copain. Vous voyez ? Ça semble mineur. Ça semble pas important. Ah, si, si. L'apôtre Paul ne le laissait pas passer. Et devant la présence de tous, il a réglé le problème. Pierre en face. Je ne vais pas être à cet endroit-là, à ce moment-là. Paul, pour Paul, c'est très grave, car cela touche à quoi ? Aux relations entre les païens et les juifs. dans l'Église. Et ça touche à l'essence même de l'Église. Pourquoi ? Paul dit, parce que si toi qui es juif, ne manges plus avec eux, c'est-à-dire les païens, parce que tu t'es esquivé, à l'arrivée des émissaires de Jérusalem, envoyés par Jacques, cela veut dire que tu les considères maintenant comme des étrangers. C'est-à-dire, ils ne sont plus tes frères. Et donc, ce ne sont plus des sauvés. Donc, implicitement, tu reviens sous la loi. Et oui, parce que la loi est stricte, hein, ne pas manger avec les païens. Donc, Pierre, en se laissant guider par l'observance stricte de la loi de la cache-route, n'est plus copain avec ces chrétiens non juifs avec lesquels il mangeait avant. Oui, on n'est pas sauvé par le fait d'être juif, mais par la foi en Jésus. Et donc, si on continue le raisonnement de Paul, tu annules la grâce en parlant à Pierre. Oui, parce que tu t'es remis, soumis au régime de la cache-route, ce ne sont plus tes frères les non-païens, les païens. Et donc, le régime de la grâce, tu n'y es plus. Tu es sous le régime de la loi. Tu t'es remis à nouveau. Et c'est là encore, chers frères et sœurs, qu'il faut comprendre le mystère du corps de Christ. Nous lisons qu'en accomplissant toutes les prescriptions de la loi, y compris la loi de la cache-route, en accomplissant toutes les prescriptions de la loi dans sa vie de juste, et en portant la sanction de la loi par sa mort sacrificielle, Jésus a enlevé la barrière légale séparant les juifs des gentils. Paul dit, c'est terminé Pierre. On n'est plus sous le régime des détails sur les lois que Dieu a données, oui. Et jusqu'à maintenant, les juifs le font, hein, ils le vivent, hein, au quotidien. Mais c'est terminé ce régime-là, on n'y est plus. Nous sommes sous le régime de la grâce. Donc, les païens, ce sont tes copains, excusez-moi, qui partagent le même pain avec toi, ce sont tes frères. Mais par ton geste, en esquivant d'eux, ce n'était pas bien, parce que tu les as exclus, comme s'ils ne sont plus tes frères. Parce que tu t'es soumis sous le régime de la gloire. Non, on est dans le régime de la grâce. Merci Seigneur, parce que Jésus a aussi détruit le mur de la séparation, contraignant ces lois qui étaient propres au peuple juif, parce qu'ils étaient le peuple élu de Dieu, séparé du monde. Mais ce n'est plus d'actualité. Est-ce que vous avez compris? Incroyable. Aujourd'hui, pour nous, on ne se pose plus des problèmes. Mais au début, c'est un grand problème. Vous avez l'exemple ici. C'est pas n'importe qui. C'était des piliers. Jacques était le pilier de l'église de Jérusalem. Paul, c'est pas n'importe qui. Pierre, c'est pas n'importe qui. Et regardez. Et là, c'est ce mystère a été révélé que cette barrière est terminée. C'est plus d'actualité. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour nous du mystère du corps de Christ. Oui, chers frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, on a deux peuples qui sont sauvés par Christ et dont Dieu va en faire un. C'est ce que nous avons dit. Aussi, à cause du mur de séparation, non seulement les Juifs doivent être réconciliés avec les non-Juifs, c'est fait, mais aussi les Juifs et non-Juifs doivent être réconciliés avec Dieu. La preuve. Les gens de la famille de Dieu, de la maison de Dieu, parce que nous sommes réconciliés avec Dieu par l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix pour cette réconciliation. Oui, c'est rendu possible car Christ a renversé le mur de séparation et les croyants juifs et non-juifs forment un seul corps sur le même pied d'égalité. Il n'a pas un qui est supérieur à l'autre, il n'est inférieur à l'autre, sur le même pied d'égalité, et ils jouissent de tous les mêmes privilèges. Incroyable. Oui, cette réconciliation fut accomplie par la croix, par laquelle Christ tua, en détruisant par elle l'inimitié entre les hommes et Dieu. Les païens n'ont pas à devenir juifs pour être sauvés. Sinon, on met encore les juifs sur la piédestal. Dans l'église, non! En Jésus-Christ, dans l'église du Seigneur, les païens que nous sommes n'ont pas à devenir juifs. Respecter la loi de la cache-voûte, les rites cérémoniels religieux, et tout. Non! Les païens n'ont pas à devenir juifs pour être sauvés. Et les juifs doivent admettre qu'ils sont pécheurs comme les païens que nous sommes. Et oui, c'est la conclusion de Paul dans Romains 3, 23, car tous, juifs et non-juifs, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, que la révélation du mystère du corps de Christ, par le Saint-Esprit dans la parole de Dieu, touche notre cœur, que nous sommes sensibles. De se dire, moi, membre de la famille de Dieu, dans l'Église, le corps de Christ, moi, c'est pas possible. Pécheur que je suis, c'est pas possible. Oui, que notre corps soit émerveillé par les grands plans de Dieu et que nous puissions adorer, le servir plus intelligemment et intensément le Seigneur Jésus, celui qui a fait connaître ses pensées et ses plans pour sa seule gloire et pour notre édification. Amen.